Chers amis mélomanes, amateurs d'opéra, bonsoir. Voici Opéra Agora, notre émission destinée à vous faire connaître ou peut-être approfondir, si déjà vous connaissez, ce que je vois bien avec les courriers que vous m'envoyez, l'opéra. Et ce soir, eh bien, avec la complicité de Nancy Zautier, notre metteur en onde, nous avons le plaisir de recevoir un compositeur d'opéra, français de surcroît, méridional de sur-surcroît. Voilà. Alors, vous voyez bien que dans mes émissions, je n'invite jamais personne, et que donc Éric Breton est mon invité pour véritablement, je pense, quelque chose de très important, car à l'heure actuelle, eh bien, les compositeurs, surtout d'opéra, eh bien, ne sont pas légion, ou en tout cas, ceux que l'on peut entendre avec facilité et avec plaisir, ainsi que l'exige toute œuvre d'art qui, pour pouvoir être aimée, doit avant tout être à la possibilité de l'écoute de tout un chacun. Mon cher Éric, c'est un plaisir de te recevoir. J'ai pu entendre, bien entendu, les autres créations que tu as faites. Et puis là, sur ce nouvel opéra, donc Le Soleil et les autres étoiles, c'est un titre tout à fait particulier. Hein.
Oui, c'est particulier.
C'est particulier, voilà. Donc tu vas nous en dire un petit peu, et même beaucoup, long sur ce sujet. Mais avant ça, écoute, pour satisfaire ma curiosité, et je pense celle également des auditeurs, tu vas un petit peu nous dire, mais comment est-ce qu'on compose un opéra de nos jours ? Il y en a eu tellement de toutes catégories, comment s'y prend-on ? Éclaire-nous.
Alors, mon cher Christian, tout d'abord, un grand merci, et je suis très très honoré, effectivement, de participer à cette émission qui est extrêmement brillante et dont je pense que nous serons à la hauteur, enfin en tout cas j'espère être à la hauteur de la réputation. Alors, répondre à cette question, ça oblige un petit peu à se remettre un tout petit peu dans le passé, c'est-à-dire que depuis un certain temps, que je ne préciserai pas bien évidemment, je compose de la musique. Il se trouve que par un enchaînement de circonstances, j'ai été amené à composer beaucoup de mélodies. Alors, comme beaucoup de compositeurs, au début, j'avais comme ambition de composer des symphonies, des sonates, des grandes pièces comme ça. Et puis, j'ai été amené à composer beaucoup de mélodies sur toutes sortes de textes. Ça va de Victor Hugo à Christian Bobin, et aussi à des langues étrangères, beaucoup en italien, beaucoup en anglais, beaucoup en allemand, en espagnol, en portugais, même en serbo-croate, voilà. En latin aussi, puisque j'ai composé deux messes en latin. Et il se trouve que, petit à petit, j'ai découvert que le fait de mettre un texte en musique était pour moi véritablement la porte d'entrée de mon inspiration propre. Voilà. Un petit peu, je crois que c'est Michel-Ange qui avait dit qu'en fait, il ne sculpte pas, il ne fait que découvrir la forme qui est cachée à l'intérieur du bloc de marbre. Et j'ai exactement bien plus modestement, bien évidemment, j'ai exactement la même sensation. C'est-à-dire qu'il suffit que je lise un texte pour qu'immédiatement me vienne une mise en musique. Voilà, c'est un petit peu... Alors, il ne faut pas en déduire que tous les textes se valent, hein, et justement, ça, c'est peut-être quelque chose qu'on va aborder, j'ai besoin, pour être au mieux de ce que je pense être mon inspiration et mon langage, j'ai besoin de textes poétiques. Voilà, ce qui nous amène à l'opéra dont nous parlons aujourd'hui.
Bien sûr, le support littéraire, voilà, est très important.
Très important.
Dirais, pour les opéras, aussi loin que l'on remonte, il y a toujours eu... Voilà. Mais alors, ce qui nous intéresse, je pense, d'abord nous, les musiciens, mais également, je pense, le public, c'est comment est-ce qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, on compose de la musique ? Est-ce qu'on fait comme du temps de Mozart avec son clavier ou c'est tout autre chose ? Bon, je sais qu'évidemment, tu as fait de brillantes études de composition. On ne se met pas à écrire sur le papier comme ça, bien entendu. Mais ça ne suffit pas d'être un brillant élève couronné par des lauréats formidables. Ce qui compte, avant tout, je pense, c'est de pouvoir mettre son inspiration en ligne, sur le papier. Comment tu fais ça ?
Alors justement, il se trouve que je rebondis sur ce que tu as dit, c'est que moi je ne suis couronné par rien du tout, parce que j'ai assez vite abandonné mes études musicales classiques, c'est-à-dire je ne suis pas allé véritablement au bout du cursus, pas parce que je n'étais pas doué, ni pas parce que ça ne m'intéressait pas, mais parce que j'ai voulu très rapidement aller plus loin que ce qu'on m'apprenait. C'est-à-dire j'ai, tout en étant extrêmement intéressé par les règles, par les lois, par tout ce qui, par le fonctionnement des choses, j'ai toujours été, je l'avoue, humblement, j'étais un peu récalcitrant, réfractaire à l'enseignement hiérarchique, si on peut dire. Donc, très vite, j'ai essayé de faire de la musique par moi-même, et pour faire très court, j'ai essayé, bon, après évidemment des bases quand même, hein, que j'ai apprises et que j'ai perfectionnées toute ma vie.
Ah ben j'ai bien vu, écoute, voilà. moi j'ai écouté ton opéra, mais surtout j'ai eu le score, c'est-à-dire oui. La partition entière. Attends, là tu es en train de te dévaluer. Non, pas du tout. On voit le métier, on voit l'écriture, on ne s'y trompe pas. Je veux dire, attends, il y a une orchestration surtout qui est tout à fait remarquable. On voit que ça a été peaufiné, étudié, tout ça. Mais comment sortir un petit peu des sentiers battus ? Voilà, c'est ça, parce qu'il y en a des sentiers, hein, bien entendu.
Des sentiers, il y en a oui. beaucoup et ils sont voilà. très battus, quoi.
Justement. Oui, voilà.
Alors, juste pour revenir un tout petit peu sur la question précédente, il se trouve que tout au cours de ma vie, j'ai toujours aimé les défis. Voilà, moi, je suis quelqu'un qui aime se fixer un horizon et voilà. Et donc, pour parfaire ma manière, si on peut dire. Je me suis astreint à ce qu'on pourrait considérer comme des exercices, c'est-à-dire que les circonstances m'ont amené devant des défis à relever. Par exemple, à Sarajevo, pendant la guerre en 1994, j'ai composé une musique en une nuit que nous avons jouée avec une partie de l'orchestre de Sarajevo le lendemain après-midi. C'est-à-dire, je l'ai composée dans la nuit, voilà. à la main.
Pris sur le vif, quoi.
Voilà. J'ai refait un petit peu le même genre de choses à Cracovie, quelques années après, où j'ai composé toute une musique de ballet pendant une semaine. J'ai été hébergé à l'Institut français. Et tous les matins, j'avais une copiste. Je répétais avec l'orchestre ce qu'elle avait copié la veille. Et on est arrivé jusqu'au samedi, où les danseurs ont fait le ballet. Donc j'étais enfermé dans une pièce, sans piano, sans rien. Et j'ai composé une heure de musique, comme ça.
D'accord.
Voilà. Et donc, ce genre de choses m'a obligé un petit peu à pratiquer toutes les situations possibles.
Alors, déjà, le premier élément dont je m'aperçois, c'est qu'avec toi, ça va vite. Ça
Oui. Voilà. Oui. Ça c'est
pas un travail assidu, minutieux. Hop,
non.
Ça jaillit.
Voilà.
Et puis ensuite, tu mets sur le papier. Bon,
voilà.
Ça, c'est la première
Exactement.
Chose.
C'est-à-dire que, après, je ne sais pas comment font les autres, hein, il faudrait leur demander d'ailleurs, mais moi, les choses commencent dans ma tête, si on peut dire, et puis très rapidement, j'ai des idées qui viennent. Alors, soit je les note immédiatement, soit je les mûris. Actuellement, mon système est que je réfléchis, je prends un texte. Alors là, il se trouve que dans le cas dont nous parlons, c'est-à-dire le soleil et les autres étoiles, j'ai écrit moi-même le livret.
D'accord, voilà. Mais à partir, je suppose, de la comédie de Dante, parce que le soleil et les autres étoiles,
voilà.
c'est...
C'est le dernier vers de la Divine Comédie.
Voilà,
Divine Comédie qui a toujours été une grande, grande source d'inspiration.
L'amour, le soleil et les autres étoiles.
Et l'amour qui est mauve, et il sol et las estelles.
Voilà.
C'est-à-dire, vraiment, oui, car c'est l'amour qui meut le soleil et les autres étoiles. Alors, l'amour dans le sens, tel que je le conçois, et je pense que Dante le concevait aussi, dans le sens, c'est la vie. C'est-à-dire que le mal peut avoir l'air de triompher à certains moments, mais derrière, il y a toujours la vie qui renaît. Et en fait, le plus important, c'est d'arriver à cette continuation de cette sève qui ne peut pas se tarir, dont nous avons quand même la charge de perpétuer la vie. Voilà,
c'est d'accord. Si je comprends bien aussi, donc évidemment, tu es de culture italienne quand même.
Ah, un petit peu. Alors bien que je m'appelle
ce genre
Eric,
de sujet.
Bien que je m'appelle Eric Breton, ni le prénom ni le nom n'ont rien d'italien. D'ailleurs, honnêtement, je me suis toujours demandé pourquoi on m'a appelé Eric. Voilà. Mais enfin, bon, c'est une autre histoire. En fait, ma mère est italienne. Elle est née pas très loin d'ici, elle est née à Orcofellino, au-dessus de Finale Ligure. Et l'Italie, ça a toujours été mon deuxième pays depuis mon enfance.
Le pays de l'opéra, quoi.
C'est le pays de l'opéra. C'est le pays de, je sais pas. Enfin voilà, il paraît qu'on revient toujours un peu vers son enfance. C'est ça.
Moi, oui, sûrement.
Je sais pas, moi, un plat de ravioli, des lasagnes, un verre de Chianti, et je suis parti. Et peut-être un peu la lecture de Dante ou de Pétrarque.
Nancy est en train de saliver là. À la cuisine italienne.
Voilà. C'est vrai que pour moi, la musique, c'est pour ça aussi que je reviens sur l'histoire. Pourquoi l'opéra ? Que tout d'un coup, j'ai trouvé que c'était pour moi l'expression idéale, parce que ça me permet aussi de conjuguer un peu mon amour des mots, mon amour de la belle langue, avec mon amour de la musique.
D'accord. Et alors, pour en revenir à quelque chose de beaucoup plus pragmatique, comment fais-tu pour faire, de nos jours, on est obligé, pour se faire entendre avant les grandes créations, de faire des maquettes. Comment ça se passe? Ça m'a l'air très compliqué, ça.
Oui, c'est effectivement très compliqué. Il se trouve que dans ma vie, qui est, si ce n'est pas qu'elle est interminable, mais enfin, en tout cas, elle est relativement longue, si on peut dire, quoi, voilà. J'ai été amené à faire des choix qui m'ont amené à à composer de la musique d'une manière un petit peu commerciale, si on peut dire. C'est-à-dire que je me suis jamais senti à l'aise dans l'enseignement et j'ai toujours refusé de devenir professeur de conservatoire ou des choses comme ça ou de donner des cours. Par contre, j'ai toujours considéré comme tout à fait honorable de composer et de réaliser de la musique pour toutes sortes de choses, c'est-à-dire pour des revues, pour de la variété, pour la télévision, pour des choses. Alors, pour faire très court, tout ça m'a amené pendant des années à développer petit à petit mon propre petit studio.
Ah voilà, d'enregistrement, d'accord. Parce que à l'origine tu es quand même pianiste concertiste.
Ah oui.
J'ai vu les enregistrements que tu as fait de Liszt, etc.
Alors tout ça, j'ai toujours réussi à le ménager avec avec une activité dans ce qu'on appelle le classique ou le classique contemporain. Quoi,
hein, voilà.
Ça aussi, c'est quelque chose d'important qui est que je souligne par rapport à mon inspiration, c'est que j'ai toujours refusé les systèmes. J'ai fait beaucoup de jazz quand j'étais plus jeune, j'ai fait beaucoup de variété quand j'étais plus jeune, j'ai joué presque tout ce qui est possible de jouer, y compris des musiques un petit peu de perse, de ces choses, avec des mesures à 21,
c'est comme ça 21, que, le, 8, que l'on apprend, hein, je pense.
Voilà,
que...
exactement. J'ai toujours adoré comme ça me frotter à des trucs que je ne connaissais pas. Ouais. Et j'ai toujours considéré que si je voulais être véritablement un musicien tel que j'avais l'ambition de l'être, il fallait que je sois capable au moins d'essayer de comprendre, quoi. Voilà.
D'accord.
Et donc de ne pas refuser par principe en disant non, ça c'est pas intéressant. Donc non,
je comprends.
J'ai appris à jouer le jazz. Alors je suis pas un jazzman, mais enfin, s'il faut, je fais illusion très très bien.
Alors, d'accord. Mais alors, revenons à ce studio-là. Comment ça se passe là? Tu dois avoir un matériel incroyable. Moi là-dedans, tu sais, à part la fosse d'orchestre, moi et mes 100 musiciens, je connais le studio d'enregistrement avec orchestre, avec ce genre de matériel ultra moderne.
Alors, il se trouve qu'au début des années 90, justement, je me suis mis à l'informatique, ce qu'on appelle l'informatique musicale.
D'accord.
Et j'ai déjà, alors il faut dire qu'en 1972, j'ai été le troisième Français à avoir un synthétiseur. Alors, synthétiseur, toi, ça te parle pas beaucoup.
Attends, je sais quand même ce que c'est, là. Attends, tu es en train de dire que je suis un vieux machin. Oui, bien
donc,
sûr, synthétiseur.
J'ai toujours mené ça un peu conjointement. Mais au début des années 90, je me suis mis véritablement pour avoir la possibilité de composer, de réaliser des musiques pour des publicités,
pour le cinéma.
Pour le cinéma, ouais. Pour Lancôme. J'ai fait pendant des années les musiques pour Lancôme,
les pubs,
pour
tout ça.
Des pubs. Pour ici, il n'y a pas très loin, il y a, comment ça s'appelle, Talgo. J'ai fait des kilomètres de musique pour ça.
D'accord.
Donc, j'ai des ordinateurs dans lesquels il y a des banques de sons, mais très perfectionnés, de très très haut niveau, et que je manipule de manière à pouvoir reconstituer véritablement un orchestre, enfin, le son d'un orchestre.
C'est ce qui est le plus stupéfiant, si tu veux, parce que bon, d'ailleurs, les auditeurs en jugeront en écoutant ce genre de prise de son. On a vraiment l'impression d'un orchestre symphonique et d'un très bon orchestre symphonique, ce qui sera le cas lors de la création de cet opéra.
Je l'espère. Alors, il se trouve que, étant donné que j'ai aussi ma carrière, si on peut dire, de musicien classique et que je dirige, il m'arrive de diriger des orchestres, c'est-à-dire là aussi, à 30 et quelques années, j'ai pris des cours de direction d'orchestre et il m'est arrivé quand même assez souvent de diriger. Donc j'ai cette expérience-là. Je ne suis pas chef d'orchestre professionnel comme toi, mais je sais faire marcher un orchestre.
Voilà, donc ça te permet déjà d'éviter un certain nombre de pièges.
Voilà, exactement. Voilà. En plus, il faut savoir que bien que je me serve de l'informatique, je travaille quand même toujours comme un vrai compositeur. C'est-à-dire, j'écris toute ma musique.
Oui.
Alors maintenant, par contre, j'écris des brouillons. Et puis après, j'orchestre directement sur l'ordinateur. C'est-à-dire, j'ai des grands écrans avec un programme qui s'appelle Final. Et j'écris directement mes trucs. Voilà,
d'accord.
Ma musique. Mais après, je prends mon logiciel pour réaliser la musique. C'est un logiciel qui s'appelle Logic. Voilà, Logic Audio.
Logic.
Voilà. Et là, je rejoue toutes mes parties avec un clavier.
Avec un clavier.
Avec un clavier.
D'accord.
Et en les jouant, je les joue en essayant de me mettre véritablement à la place de l'instrumentiste. C'est-à-dire que quand je joue une partie de flûte, je joue comme
indispensable de chef d'orchestre que tu as eu pour pouvoir faire les respirations et autres.
Exactement, exactement. Et ensuite, il y a tout un travail de mélange, de mixage. Et il se trouve que j'ai la chance d'avoir pas mal d'amis chanteuses et chanteurs. Venais,
et pour les voix, tu ne vas pas me dire quand même qu'en appuyant sur une touche, ça fait la voix de Pavarotti quand même.
Non, pas du tout. Il se trouve que j'ai la chance d'avoir un certain nombre d'amis, qui, à l'occasion d'un passage pas loin de chez moi, hop, je les attrape par le col et je leur dis, s'il te plaît, viens. Voilà, c'est pour ça que donc, j'ai des gens comme Lydia Maillot, Pierre-Antoine Chaumien,
sur
Pierre
ce que
Guiral,
j'ai entendu, ce sont des vrais professionnels de l'opéra.
Adrien Jouadou, ainsi de suite, Émilie Ménard, à qui j'ai dit, bon, écoute, tu pourrais venir me faire ci ou ça. Alors, je leur envoie la partition par Internet, il la travaille un peu et ils viennent à la maison. Et là, ils travaillent avec un casque et je les dirige en même temps.
D'accord.
C'est-à-dire que j'envoie le playback et je les dirige et j'essaie de les faire chanter parce qu'après, évidemment, c'est difficile.
Avec tes indications
On recommence, je leur dis un peu plus comme ci, un peu plus comme ça. Et après, je mélange encore tout ça, c'est-à-dire que j'ai la possibilité, avec ces logiciels-là de musique, de faire des ralentis, de rajouter, alors pas sur les voix, mais par exemple, je peux faire ralentir un petit peu l'orchestre, faire une suspension, enfin, je fais
d'accord,
tout.
D'accord.
C'est un travail, c'est des centaines, des milliers
d'heures. Oui, j'imagine, c'est beaucoup de travail.
Mais justement, mon expérience de chef d'orchestre me permet d'après de diriger véritablement. C'est-à-dire, le stade final, par exemple, ça va bien te parler, c'est que je lance mon truc avec mon grand score d'orchestre de
Brunet,
et je me mets dans un petit peu comme si j'étais en condition réelle et je dirige. Puis là, je me dis, là, je ferai... un truc comme ça. Enfin,
C'est possible avec l'ordinateur.
Alors, je m'arrête, et là, je lui dis, tu vois, ici, à la mesure 97, sur le quatrième temps... on est à 98 à la noire, tu vas redescendre à 96 puis remonter à 97. Oui. Tu vois, c'est un travail de bénédictin d'ailleurs, puisqu'on est dans les moines.
Alors écoute, merci de me passer de me passer la clé là, parce que ce titre, issu de la Comédie de Dante, d'accord, mais en plus, j'ai bien vu, et donc tu me l'as souligné, que c'était l'histoire vraie des moines de Tibérine.
Voilà.
Quel drôle de sujet d'opéra. Pourquoi ça? Qu'est-ce que...
Alors d'abord, ce n'est pas exactement l'histoire vraie, c'est justement un petit peu ce que je vais développer. Bon, c'est, premièrement, je suis depuis très longtemps intéressé par ce thème de... jusqu'où peut-on aller pour rester fidèle à son engagement, fidèle à son idéal. Et je suis très intéressé aussi par cette question de filiation un petit peu depuis des temps immémoriaux jusqu'à un futur que l'on espère radieux, bien évidemment. Voilà, de cette filiation de gens qui seraient un petit peu des éveillés, des penseurs, des gens qui ont à cœur de perpétuer une idée noble de l'humanité.
Voilà. Des passeurs de flammes.
Voilà, des passeurs de flammes, des passeurs d'idées, des passeurs de philosophie. Alors, ce qui n'a pas forcément rapport véritablement avec la foi. Hein, voilà. Mais il se trouve que cette histoire des moines de Tibérine, qui remonte à 1996, donc ce sont des moines qui vivaient en plein milieu du désert en Algérie, et à qui on est venu dire un jour, enfin des intégristes, des terroristes sont venus dire « Bon, vous n'avez rien à faire là, en allez-vous, autrement on va vous buter. » Et ils ont dit « Non mais nous, on est là, on ne fait que le bien, on prie, on soigne, on aide, donc il n'y a pas de raison qu'on trahisse notre mission uniquement parce que tout d'un coup, il y a des gens qui sont dévorés de haine. Jusqu'à maintenant, tout se passait très bien, donc passez votre chemin et
d'accord,
allez voir ailleurs.
D'accord.
Voilà. Bon, je schématise, hein, c'est
oui,
beaucoup,
non,
beaucoup plus complexe que ça. Voilà.
J'imagine bien, mais enfin, voilà. En tout cas, le sujet, il est là. Alors, peut-être maintenant, je pense qu'il est temps de faire entendre déjà un début de ce genre
très,
de musique.
Très volontiers. Alors, voilà. Je voudrais juste dire un petit mot là, sur ce premier exemple, ce premier extrait. J'ai choisi, je demande de prendre la scène 1, c'est-à-dire
le
l'ouverture.
Début de l'opéra,
voilà, le début.
D'accord.
Et ce début, vous allez l'entendre, là, ça démarre par un chœur d'hommes.
Hein. D'accord.
Ça peut être des moines, parce que dans mon histoire, ça peut être des moines, mais ça peut être des laïcs, ça peut être des bouddhistes, des soufis. Voilà, je fais abstraction de l'idée de religion. Ça, c'est un chœur qui est en coulisses, et l'auditeur peut éventuellement se dire « Bon, aïe, 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 ça va être ramolli, ça va être… » voilà. Et tout d'un coup, je fais rentrer un ostinato de contrebasse et de violoncelle, et il y a un grand appel, vous allez entendre, un gars qui dit « Frère !» voilà. Et ça continue justement dans l'énergie, parce que justement, je voulais montrer que ces hommes sont avant tout des hommes. Alors ça pourrait être des femmes aussi, hein, il se trouve.
Oui, oui.
Voilà, c'est pas, quand je dis homme, ça n'est pas discriminatoire, mais simplement, ce sont justement des gens qui ne vont pas se battre par la force ni par des armes, mais qui vont se battre par leur conviction.
Voilà, ils vont résister,
voilà,
en somme.
Ils vont résister par leur force morale.
Écoutons le premier extrait.
Qui sommes-nous? Des hommes, de simples hommes, éveillés dans la nuit. Que faisons-nous? Écho de nos voix, répondre à celui de nos frères. L'onde fugitive de nos chants glisse dans le vent, se perd dans l'espace, transperce l'éther et nous revient au véolé de lumière. Dans le sacré lieu, on souffle l'esprit. Au veine lutte du jour. musiciens les plus garants de la continuité du monde. En ces temps troublés, que dit-on de nous? Selon certains, nous serions inutiles, veilleuses improductives et dérisoires. Nous serions même lâches, fuyant le siècle, fuyant ses défis. D'autres nous disaient étrangers, voudraient nous chasser.
Décrète notre présence impure.
Voilà. Ben écoute, là, on se fait quand même une idée. Une idée. Alors moi, la première impression que je redécouvre, parce que bien entendu, je connais ton opéra, je l'ai entendu en entier, je l'ai étudié avec le score, c'est-à-dire la partition que tu m'as envoyée. Ce que je relève, c'est déjà, si tu veux, en même temps que c'est très écoutable, il n'y a pas besoin d'avoir fait des études absolument gigantesques sur l'école de Vienne ou autre dodécaphonisme très à la mode. Non, ça reste très écoutable, mais en même temps, je sens une espèce de dimension, tu vois, un peu comme une peinture, tu vois, avec des couleurs. Enfin, c'est finalement quelque chose de très descriptif, me semble-t-il, en même temps que spirituel.
Effectivement, c'est une excellente manière de présenter ma musique. Je dirais que pour donner une description générale, voilà, pour essayer d'expliquer un petit peu ma manière, je dirais que j'ai trois grandes idées, enfin trois grands pôles d'intérêt pour la composition de la musique, c'est séduction, admiration et pulsation. Voilà. Alors séduction dans le sens où, et c'est ce que je fais aussi quand je compose, c'est que je considère que l'important c'est d'emmener l'auditeur quelque part. Donc séduire dans le sens de seducere, c'est-à-dire emmener ailleurs à l'insu de celle ou celui qui écoute. Pas dans le sens d'une manipulation, mais au contraire d'arriver à faire un petit peu lâcher prise et de dire suivez-moi, venez avec moi et je vous entraîne vers quelque chose de différent. Voilà.
Invitation au voyage.
Invitation au voyage, exactement. Et c'est exactement ce que j'essaie de faire lorsque je compose. C'est-à-dire que si moi-même je ne suis pas séduit par l'idée que je suis en train de mettre en forme, je l'abandonne et je passe à autre chose.
D'accord. Voilà.
Ça, c'est quelque chose qui est fondamental. C'est-à-dire que je n'essaie jamais de forcer le système, et surtout, ben, le mot système me vient spontanément, et surtout de n'utiliser aucun système, ou en tout cas de n'utiliser aucun système d'une manière permanente.
Voilà, il n'y a pas de recette, il n'y a pas de recette de cuisine, il n'y a pas de choses, d'accord. Tu nous mets l'eau à la bouche, on va écouter un deuxième extrait.
Alors, un deuxième extrait.
Voilà, et puis tu vas un petit peu nous le commenter, parce que celui-là, il est particulier.
sera levé en ce moment troublé.
Il est différent du premier, dans la continuité, bien entendu, mais on sent un développement, on sent l'orchestre, là, tout d'un coup, qui, hop, se faufile dans le désert. C'est très intéressant au point de vue, je trouve, moi qui j'aime beaucoup les poèmes symphoniques, des fois, il y en a de très beaux au sein même des opéras, bien entendu. Ce deuxième extrait, parle-nous un petit peu de ce deuxième extrait.
Alors, ce deuxième extrait, justement, présente la servante qui est magnifiquement chantée par Lydia Mayo.
Une belle voix.
Voilà, magnifique
très
voix.
Très jolie, très très jolie.
Et en fait, c'est la seule, c'est un peu ce qu'on appelle maintenant une interface, c'est la seule qui a accès à l'extérieur. Et c'est elle qui ramène les nouvelles de plus en plus alarmantes qui vont permettre à l'action d'évoluer. C'est-à-dire que chaque fois qu'elle ressort à l'extérieur et qu'elle va dans le village, elle rapporte qu'elle a entendu des choses de plus en plus inquiétantes, menaçantes.
Tu sais quoi ? Tout d'un coup, ça m'a fait songer à la Kundry de Parsifal. Ce personnage qui voyage à travers les âges et qui est, en somme, si tu veux, une espèce de baromètre des situations, là.
Oui, les corbeaux de Odin, Wotan aussi, qui vont parcourir le monde et qui viennent lui rappeler à l'oreille.
Alors, on est dans des sagas, là, tout ça. on touche à des sagas, là, dis-moi un petit peu plus là-dessus.
Je dois dire que mon opéra, enfin, Le Soleil et les autres étoiles, il n'y a pas véritablement d'inspiration nordique, si ce n'est mon admiration illimitée et récurrente et maniaque presque de Wagner. Mais plus pour les questions musicales que véritablement pour son goût des sagas nordiques.
Les auditeurs vont croire que je t'ai invité uniquement endurci comme moi.
Il faut reconnaître qu'effectivement, ça fait des points de convergence et qui nous aident à mieux se comprendre. Quoi.
C'est très clair.
Alors, ce que j'ai retenu de Wagner, justement, c'est cette... c'est pour ça que tout à l'heure je disais admiration, j'ai séduction, admiration, pulsation. C'est ce besoin en permanence de caractériser l'action, de caractériser la ligne vocale par un orchestre extrêmement subtil qui, tu le sais certainement mieux que quiconque, est loin d'être l'orchestre wagnérien caricaturé par, c'est-à-dire cette espèce de d'énormes machines diesel derrière.
Oui, bien entendu.
C'est de la blague. J'essaie en permanence de caractériser et d'avoir un orchestre. Alors, c'est étrange parce que dans les principes d'orchestration, on pourrait dire que j'orchestre plutôt à la française plutôt qu'à la germanique. C'est-à-dire qu'il y a très peu de doublures et j'aime utiliser les sons purs, c'est-à-dire les bois avec les bois, les cordes avec les cordes, les cuivres avec les cuivres. Mais de temps en temps, il y a des petits mélanges, pas mal de percussions aussi. Et tout ça dans le but d'être en permanence dans une forme de, comment pourrait-on dire, de tension, résolution, de surprise. Parce que pour la séduction, pour le plaisir... pour la joie, pour le plaisir, il faut de la surprise de temps en temps. Voilà. Donc, si on a un orchestre qui est totalement monotone, monolithique derrière et qui ne fait soutenir, ce n'est pas véritablement ce que je cherche. Voilà. Donc, mon admiration pour Wagner, pour Mendelssohn aussi. Me porte justement à utiliser une palette assez différente de sons.
Justement, puisqu'on est à la palette sonore, on va écouter le troisième extrait. Et puis là aussi, si tu veux bien nous faire avancer un petit peu dans cette espèce, j'ai l'impression, d'un chemin finalement initiatique, spirituel, avec ou sans Dieu, peu importe, ça c'est autre chose, mais dans cet opéra.
Je marchais comme un homme troublé par un trop grand désir. Au l'aube gagnait sur l'heure matinale qui fuyait devant elle. Qu'elle fut là où l'herbe est baignée, déjà par l'eau de la belle rivière. Elle me fit don de porter son regard vers moi.
Comme moi cherches-tu le confort d'un asile idéal, comme moi entends-tu une cloche lointaine qui égrène un chant doux et mélodieux.
Comme toi.
Cherche-tu une vie plus grande que la tienne? Cherche-tu en secret l'amour le plus serein, la lumière et la joie d'une vie nouvelle?
Comme toi, comme toi. De ce jour nous allions,
de ce jour nous allions
aux échanges.
Alors justement, c'est un chemin initiatique et qui là va passer par le détour de l'amour, puisque nous avons affaire à principalement des hommes, puisque nous sommes dans un monastère, mais il se trouve qu'à un moment, le prieur va demander à chacun des moines principaux de raconter un peu la manière dont ils sont venus à prononcer des vœux monastiques et à se retirer pour une vie contemplative. Et l'un d'entre eux va raconter que c'est à la suite d'un amour totalement terrestre pour une jeune femme qu'il en est venu à ça, parce que cet amour terrestre a été tellement puissant et tellement fort entre tous les deux qu'ils ont choisi d'aller plus loin, et la jeune fille est rentrée dans un couvent et le jeune homme est rentré dans les ordres lui aussi. Et alors, ça fait référence à quelque chose qui, nous revenons à la Divine Comédie. En fait, l'idée m'en est venue avec l'histoire dans le Purgatoire de Dante, de l'histoire de Paolo et Francesca, Francesca de Rimini, et justement, alors eux, c'est un petit peu différent, mais quelque part, c'est ce qu'a montré Dante, c'est-à-dire que l'amour, quelque part, est encore plus fort que le reste,
oui.
Et que justement, ces deux-là se sont retrouvés au purgatoire, pas en enfer, mais au purgatoire, justement parce que leur amour était tellement fort qu'il aurait pu constituer quelque part une forme de défi à Dieu. Et dans la manière dont j'utilise cette histoire, eh bien justement, cet amour va être tellement immense qu'ils vont le transcender en amour divin, en amour pour l'humanité. Et donc chacun va se consacrer à une vie méditative, contemplative, une vie de prière.
D'accord, et effectivement, et d'ailleurs, tu sais, je me suis toujours demandé, en lisant la comédie de Dante, est-ce que les personnages que Dante met en enfer, ou au purgatoire, ou au paradis, est-ce que c'est lui qui les met véritablement? Ou est-ce qu'il constate qu'ils sont là? Parce que justement, dans le cas de cet amour impossible, mais coupable quand même, oui, entre Paolo et Francesca, On a l'impression d'ailleurs, et c'est pas une impression, puisque Dante montre sa compassion. Oui. Alors, il est plein d'être là. Alors, s'il est plein, pourquoi il est mis au purgatoire et pas directement au paradis ? Est-ce qu'il y a quand même... Explique-nous un peu ça, parce que c'est quand même très profond ce que tu as mis dans cet opéra,
oui, alors,
vers cette lumière qui nous éclaire.
Sur la question de Dante, bon, je me sens quand même pas trop habilité à faire un cours magistral là-dessus.
Non, mais sur ton opéra, sur l'avancée de...
Oui. Ça rejoint mon idée dont j'ai parlé tout à l'heure, ça rejoint cette idée que l'amour est plus fort, l'amour donc la vie, hein, est plus fort que le mal. À certains moments, on peut penser, par exemple actuellement, je pense que l'actualité nous en montre certains exemples, on peut penser que le mal est en train de progresser, que le mal est peut-être même en train de triompher.
Hélas,
et on a malheureusement le XXe siècle nous l'a montré à de très très nombreuses reprises. Mais il se trouve que c'est toujours l'amour au final, comme dit Dante, l'amour qui est mauvais, il sol et l'altre estelle. C'est-à-dire que c'est ce qui fait tourner le monde, c'est l'amour. Voilà. Et cet amour, à certains moments, il a besoin d'être dépassé et d'aller plus loin. Et or, je reviens dans cette histoire de longue fraternité qui nous amène dans l'Antiquité et qui nous mènera, j'espère, encore très très loin dans le futur. Et on peut dire que quelque part, cet homme et cette femme ont choisi de transcender leur amour pour rejoindre cette espèce de grande fraternité de veilleurs, de transmetteurs qui mettent justement tout leur amour dans la sauvegarde du monde, ou en tout cas ce que le monde a de meilleur.
Est-ce que, donc, je pense aussi, bien entendu, à la flûte enchantée de Mozart, qui ne cache pas qu'il a composé cet opéra pour une obédience maçonnique. Voilà, ça c'est autre chose, mais c'est un chemin aussi, bien entendu. Mais tu t'appuies, toi, sur certains mystères grecs, par exemple, de la mythologie, pour faire avancer tes personnages et les nourrir de ce savoir et de cette conviction que la spiritualité existe avec ou sans Dieu.
En partie, oui. Par exemple, je suis assez fasciné par la Kabbale, par les mystères d'Éleusis, par toutes ces choses-là. C'est-à-dire tout ce qui a essayé, tous les endroits, tous les moments où les mythes, où les hommes ont essayé de dépasser un petit peu leur condition. Et par exemple, par rapport au mythe d'Éleusis, il y a une phrase qui a été dite par Cicéron un siècle avant notre ère, qui me paraît nous parler encore énormément et qui a un petit peu sous-tendu la composition de cet opéra et en tout cas l'écriture du livret. Cette phrase de Cicéron, c'est ces mystères-là, donc les mystères d'Éleusis, nous ont appris à vivre dans la joie et à mourir dans l'espérance. Alors ça ne fait pas forcément référence à une vie éternelle, une résurrection, dans une acception typiquement chrétienne, mais en tout cas, justement, cette notion de vie qui continue, que quelque part, même, c'est ce que je dis à un moment dans mon opéra, il ne faut pas confondre l'immortalité et la métamorphose.
D'accord. Je vois, finalement, je te le dis en toute franchise, je trouve que c'est quand même très difficile de faire passer dans l'opéra ce genre, si tu veux, de message. On est plus habitué, bien entendu, à la dramatique traditionnelle, le trio, l'amant,
oui.
Le mari jaloux.
Comme on dit toujours, l'opéra, c'est le ténor veut... veut séduire la soprano et le baryton fera tout.
Voilà. C'est souvent les... Mais donc tu as écrit le livret aussi.
J'ai écrit le livret de A à Z.
Alors là, tu t'es lâché complètement,
complet,
justement. Oui. Cette idée, d'accord. Tu as rompu avec tes autres. Tu avais déjà écrit.
Oui, alors dans le précédent, là, dans un des précédents, dans le Messie du peuple chauve,
voilà.
J'avais écrit le livret, mais sur la base d'une pièce de théâtre et d'un roman qui avait été écrit par Augustin Biédou. Et donc j'avais vu cette pièce de théâtre, j'avais lu le roman et j'étais entré en contact avec lui pour lui demander s'il m'autorisait. Et j'ai écrit le livret, mais donc je m'appuyais sur quelque chose qui était déjà existant. Là, je suis parti dans le vide complet et j'ai commencé d'ailleurs par 3 mois d'interrogation parce que j'avais 3-4 sujets devant moi. J'avais l'histoire de Giordano Bruno. J'avais aussi l'histoire des cathares à Montségur qui m'intéressait beaucoup. Massada, la résistance des Juifs à la forteresse de Massada,
oui,
dans les années 60 et quelques, là, contre les Romains. J'avais aussi l'histoire de Spinoza qui se met en retrait de sa communauté pour pouvoir continuer à dire ce qu'il veut dire. Voilà. C'était donc, on était toujours dans cette idée de résistance, quelque part.
Voilà. Un petit peu. Donc, excusez-moi, finalement, tu ne peux pas te contenter de l'amour de monsieur et madame. Tu as besoin, comme certains grands compositeurs, bien entendu, de mettre en musique un message où les chanteurs ne sont pas là presque en tant que qu'être humain seulement, mais en plus porteur d'un message spirituel. Et évidemment, ça me semble encore plus compliqué à faire. Mais heureusement, la musique est très écoutable.
Exactement.
Très, très, très écoutable. D'ailleurs, on va écouter le quatrième extrait. Et ce quatrième extrait que nous venons d'entendre, c'est franchement, je crois que c'est celui, moi, qui me touche le plus au point de vue de la poésie, au point de vue de la lumière, ouais, la clarté.
Il y a un petit peu de Dante derrière.
Voilà, on ne peut pas s'en passer. Voilà. Hein.
Alors, je dois avouer une chose, hein, je vais l'avouer, bon, j'espère que personne ne l'entendra, mais... Non, c'est une blague. Ce que je veux dire, c'est que c'est vrai que j'ai beaucoup lu la Divine Comédie et il y a certaines phrases que j'ai utilisées, sorti de la Divine Comédie, mais plus ou moins textuellement. Mais aussi, j'ai essayé à certains moments de reprendre un peu la manière dont Dante écrivait, quoi. C'est un petit peu ça. Et en particulier dans la séquence que nous venons juste d'entendre, c'est que je suis parti un peu de cette histoire de Paolo et Francesca. Il y a des endroits. Nous étions un jour en train de lire un livre, Et ça m'a amené vers cette forme très poétique, parce que comme je le disais au début de notre entretien, pour composer une certaine musique, j'ai besoin d'un texte poétique. C'est-à-dire que, étant donné que chez moi, le texte donne immédiatement une certaine couleur musicale, qui est toujours quand même dans ma manière, mais j'avais besoin, pour faire ce que je pense être pour le moment le mieux de ce que j'ai fait, j'avais besoin d'un texte extrêmement poétique, c'est-à-dire quelque chose qui me fasse naviguer des choses, dans des domaines un petit peu plus élevés que la langue triviale de tous les jours.
Eh bien écoute, tu l'as fait et tu l'as bien fait. Et je suis sûr que cet opéra aura le succès qu'ont eu tes autres compositions, en particulier, je pense à Irina, sur le texte de notre ami metteur en scène Antoine Selva, que l'on salue au passage. Okay. Et puis, je suis persuadé que ça va intéresser très certainement, parce que ce n'est pas, comme disait Arturo Toscanini à propos de Lohengrin, ce n'est pas que de la musique, mais de la belle musique. Mmh. Voilà, bienvenue à ton opéra. Je suis sûr et certain que ça va fonctionner très bien, comme tes autres ouvrages l'ont déjà prouvé. Et puis, malheureusement, le temps passe à une allure faramineuse. Nancy et moi-même, et puis toi, mon cher Eric, nous saluons nos auditeurs. Et puis, rendez-vous est pris pour une prochaine émission. Chers auditeurs, bonsoir.